Donc, je propose d'ouvrir les questions à la salle, et puis après, nous reprendrons... Ah, pardon, Didier, pardon, oh là là là. Bon, donc Didier... Non, d'autant plus que... Non, arrêtez. Donc oui, au-delà des aspects techniques, quel miroir ce processus d'adhésion tend-il à l'Union européenne et aux Turcs? Vous voyez, la question que j'allais escamoter, c'est quand même une question clé, puisqu'en plus, c'est aussi une façon de conclure sur ces différentes interventions. Est-ce qu'il y a des faux arguments, des vraies difficultés? Est-ce qu'on peut parler de tergiversation européenne aussi bien que turque? Monsieur Billon, excusez-moi encore.
Merci, Ariane. Je ne vais pas céder à mes marottes et lubies et obsessions géopolitiques pour une fois. Et conformément à ce que m'a demandé Ariane, je voudrais essayer modestement de tenter de mettre un peu en perspective pour essayer de mieux décrypter les facteurs de blocage qui incontestablement existent dans le processus de pourparlers actuel entre la Turquie et l'Union européenne. Mais avant cela, j'aimerais aussi remercier les organisateurs de cette journée et Turquie européenne pour avoir organisé cette manifestation de débat, de réflexion et d'avoir bien voulu m'inviter. Alors Ariane nous a demandé de ne pas revenir à Soliman ni à François Ier, à la raison. Je ferai quand même un petit retour, mais de quelques années, à ce fameux article qu'avait commis Valéry Giscard d'Estaing dans un grand quotidien du soir, comme on dit habituellement. Nous étions en 2002 et Giscard d'Estaing, à l'époque président de la commission chargée de rédiger le traité constitutionnel européen, qui a été promis à un grand succès en France dans les années qui ont suivi, avait déclaré tout de go que la Turquie était certes un pays proche de l'Europe, un pays important, un pays qui avait une élite développée, mais ce n'était pas un pays européen. Et ensuite, Giscard d'Estaing, dans le même papier, disait... facteur aggravant, que si, par malheur pour lui, la Turquie venait à entrer dans l'Union européenne, alors ce serait la fin programmée de l'Union européenne elle-même, rien de moins. Incontestablement, les réactions furent assez nombreuses et souvent passionnées suite à ce papier. Et au-delà de l'aspect très outrancier et je trouve inutilement provocateur de ces propos, force est quand même d'admettre qu'en lançant ce pavé dans la mare, Giscard d'Estaing exprimait tout haut ce que beaucoup d'autres dirigeants européens pensaient tout bas et n'avaient jamais osé exprimer publiquement. Et depuis lors, eh bien, la Turquie a cristallisé des questions qui, faute d'être totalement réglées, auraient au moins dû être prises à bras-le-corps depuis longtemps par les protagonistes de la construction européenne. Pour aller à l'essentiel, et vous me pardonnerez le schématisme, je crois qu'il y a trois points qui méritent d'être mis en exergue. Tout d'abord, celle de la délimitation des frontières européennes. Deuxièmement, celle de la définition de l'identité européenne. Et enfin, la pertinence ou non du niveau européen pour décider et agir dans un monde globalisé. Et de ce point de vue, sur ces dossiers, la Turquie agit évidemment comme un révélateur dans le processus de la construction européenne. Il faut tenter de mettre en perspective aussi cette fameuse construction européenne, qui n'est pas simple. Je crois que l'Union européenne s'est partiellement construite sur l'idée qu'il fallait affaiblir l'État-nation, considéré comme facteur de nombreux maux qui avaient notamment touché l'Europe dans la première partie du XXe siècle. Et qu'il fallait donc transférer au niveau supranational l'exercice de compétences progressivement étendues, en faisant clairement le choix de la libre concurrence au sein d'un marché commun. Pourquoi pas, me direz-vous? Sauf que ce que j'appellerais cet économisme originel persiste à profondément marquer le sens et la méthode de la construction européenne aujourd'hui. Et cette Union européenne ne possédant pas, de projet politique affiché, même si les pères fondateurs de l'Europe, comme on dit, étaient clairement dans une perspective fédéraliste, eh bien, l'Union européenne, en réalité, a progressé par une série de faits accomplis. C'est-à-dire que l'interdépendance des économies, par exemple, a conduit progressivement à l'Europe monétaire et le marché commun s'est dilué dans une vaste zone de libre-échange. C'est d'ailleurs pourquoi Jacques Delors, protagoniste important de la construction européenne, s'il en fut, a souvent, à plusieurs reprises en tout cas, tenté de qualifier l'Union européenne comme, je cite, un objet politique non identifié. En outre, facteur complémentaire de difficulté, eh bien, la chute du mur de Berlin, il y a juste 20 ans, a entraîné l'Union européenne à sans cesse reculer ses frontières. Et aujourd'hui, la perspective d'une Union européenne à 33, 34, 35 membres s'inscrit désormais dans la perspective du moyen terme. Alors, pour de multiples raisons, cette méthode que je considère comme très mal maîtrisée n'est pas ou n'est plus tenable. Je crois qu'il est plus que jamais nécessaire de remettre sur ses pieds le processus de construction européenne. Parce que, au cours de l'histoire, jamais les fuites en avant n'ont permis l'édification de projets politiques viables, et que un système politique démocratique n'a jamais vu le jour sans objectif affirmé, compréhensible et assumé par ses citoyens. On conviendra donc qu'en réalité, le débat fondamental, essentiel, ne se trouve pas aujourd'hui entre la Turquie et l'Union européenne, mais porte, ou en tout cas devrait porter, plus fondamentalement sur la nature même de l'Union européenne. En ce sens, les controverses, les blocages qui existent à propos de l'hypothétique adhésion de la Turquie à l'Union européenne agissent en réalité, en fait, comme une sorte de miroir qui est agité à la face de l'Union européenne. Et malheureusement, révèle la difficulté, pour ne pas dire l'incapacité, à ce jour, à l'Union européenne, à formuler un projet clair, audible et, si possible, mobilisateur. Alors, donc, ça veut dire qu'au-delà de l'adhésion d'un nouveau membre, en l'occurrence la Turquie, cela provoque ou devrait provoquer des débats sur la construction européenne elle-même. Les deux dossiers sont intimement liés, ce qui rend évidemment l'analyse très compliquée. On nous a expliqué à de multiples reprises que l'élargissement de l'Union européenne, l'Union à 27, c'était en fait, le prix de la dette contractée par l'Europe occidentale vis-à-vis de ses voisins orientaux, qu'on avait laissé un petit peu de côté pendant la période du joug stalinien, et que c'était donc le moment de réunifier la famille européenne. Oui, l'image est assez plaisante, et il ne s'agit bien évidemment pas de contester la place que peuvent avoir ce qu'on appelait avant les PECO au sein de l'Union européenne, cela va de soi. Mais attention, cette obsession unificatrice, éventuellement légitime, n'aurait pas dû laisser de côté les questions de fond au profit de considérations budgétaires et de, comme dirait Hubert Védrine, de plomberie institutionnelle. Et c'est ça la question qui est fondamentale. Facteur aggravant, au passage, c'est que cette référence à l'histoire récente, elle est juste, mais elle ne devrait pas être sélective, et j'entends assez rarement le fait que la Turquie, au moment de la même guerre froide, était dans une position géopolitique et géostratégique telle qu'elle arrangeait beaucoup les Européens à l'époque devant ce qu'on appelait l'expansionnisme soviétique. Encore faudrait-il, par honnêteté intellectuelle, aussi rappeler cet aspect des choses si on veut faire des références à l'histoire récente. Donc là encore, deux poids, deux mesures, ce que les Turcs n'apprécient que moyennement, à juste titre. Le cœur de la difficulté, donc, c'est l'image que l'Union européenne se fait d'elle-même. Et nous savons qu'il y a dans les milieux dirigeants européens, ou certains d'entre eux, une volonté récurrente de réduire la place de la Turquie à une sorte de statut particulier qui pourrait prendre la forme d'un partenariat privilégié. Le mot est en vogue aujourd'hui, sans qu'on ne sache d'ailleurs très exactement ce que cela signifie. Mais en clair, et en tout cas, c'est pour exclure implicitement de toute participation structurelle à une Europe politique la présence de la Turquie. Et de ce point de vue-là, ça nous renvoie aussi à la fameuse question de l'européanité de la Turquie, essentielle, fondamentale. Et on le sait bien, on n'a pas le temps d'y revenir, mais rappelez-vous le Conseil européen du Luxembourg en 1997, qui avait exclu la Turquie de la liste des États potentiellement membres, puis retour de bâton en 1999 à Helsinki, où là on s'inscrit, tant mieux, dans la perspective que la Turquie puisse être un État considéré comme les autres candidats et que les mêmes critères devaient s'y atteler. Ce qui signifie en d'autres termes que les doutes émis par certains sur l'européanité de la Turquie ne devraient plus avoir lieu d'être. Nous sommes évidemment loin de cette situation et sans cesse, cette interrogation est remise sur le métier. Alors, quelles que soient les réponses apportées, quelles que soient les options prises par les uns ou les autres responsables politiques, en tout cas, la question du double standard est sur les lèvres de la plupart de nos partenaires, de nos interlocuteurs et amis turcs, dont, vous le savez bien, le désarroi et l'amertume sont de plus en plus fréquents. Et là, je voudrais prendre deux exemples qui vous rappelleront, parce que vous les avez sûrement en mémoire, de facteurs, de paramètres qui, évidemment, rendent les discussions, les pourparlers négociations extrêmement difficiles. Je me permets de prendre un exemple, puisque nous sommes ici au sein de l'Assemblée nationale, d'une fameuse lettre qui avait été adressée en septembre 2005 par 43 parlementaires UMP au président de la République française, à l'époque Jacques Chirac. Je cite deux lignes de cette lettre. « Nous sommes nombreux, disaient ces 43 députés, nous sommes nombreux en France et en Europe à éprouver une très vive réticence, voire une sincère aversion à l'idée de l'ouverture de ces négociations. » Nous étions quelques semaines avant l'ouverture de ces négociations. Moi, je suis quelqu'un de discipliné, je suis allé prendre mon dictionnaire et j'ai cherché le mot « aversion ». Aversion. Alors, je cite le petit Robert, je ne fais pas de publicité, bien sûr. Grande répugnance, violente répulsion. Et puis, il y a des synonymes. Antipathie, dégoût, exécration, phobie. Les mots ont un sens dans la langue française, surtout quand elle est utilisée par des députés. Donc, c'est donc la question de l'altérité qui est posée par cette lettre. Et c'est ça qui est très important. Et quels que soient nos enthousiasmes ou nos préventions éventuelles à l'égard de la construction européenne, il ne me semble pas acceptable que le repli identitaire, les peurs fantasmatiques et encore moins la xénophobie puissent constituer de quelconque raison pour rejeter la candidature d'un pays, d'une société, d'une culture, en l'occurrence, qui ont beaucoup à apporter à l'Union européenne. Deuxième exemple, dans un registre très différent. Madame Sylvie Goulard, que vous devez connaître de nom, dans un bouquin qu'elle a commis il y a quelques années, 2004, je prends une ligne. Elle dit « La preuve d'une évolution durable de l'islam turc devrait être apportée avant de commencer à ouvrir les négociations ». Là encore, c'est juste avant les négociations, mais elle est toujours sur la même logique aujourd'hui, alors que les pourparlers, je préfère parler de pourparlers que de négociations d'ailleurs, ont commencé. Outre que Madame Goulard semble visiblement ignorer la réalité plurielle de ce qu'elle appelle l'islam turc, ce que j'appellerais personnellement plutôt les islams turcs, mais enfin peu importe, ce n'est pas le sujet. Notre amie Sylvie Goulard, quand même président du mouvement européen France, députée européenne depuis quelques mois, ne semble pas saisir l'énormité des propos qu'elle a proférés. Parce que s'il est question d'exiger des croyants, quels qu'ils soient, de modifier leurs pratiques pour que leur pays puisse oser envisager l'hypothétique perspective d'une ouverture des pourparlers ou d'adhésion à l'Union européenne, alors on est très mal parti dans cette construction européenne. Moi, j'avais la faiblesse de considérer, jusqu'à la lecture de ces lignes, que la construction européenne relevait fondamentalement d'un projet politique et non pas de l'appréciation portée sur les évolutions de telle ou telle religion. Bon, alors ce refus de l'altérité qui se pose notamment en termes de religion majoritaire révèle, je crois, une conception pour le moins inquiétante de l'avenir de l'Union européenne elle-même. Et je crois qu'il faut s'interroger sur cette perte de repère de la construction européenne. Nous savons que l'Union a procédé ces dernières années à plusieurs vagues d'élargissement, sans être à ce jour, et je ne suis pas pessimiste, ou peut-être le pessimisme de la raison, mais aussi l'optimisme de la volonté, comme disait Gramsci, nous n'avons pas été capables de réformer les institutions européennes, pour l'instant. Nous n'avons pas su définir exactement ce qu'était cette fameuse fédération des États-nations, vous savez, qui est fréquemment agitée par des responsables politiques. Donc, on manque de projets lisible, mobilisateur pour les citoyens et les acquis communs qui existent, qui sont importants, mais en même temps semblent bien fragiles. Et le risque est grand aujourd'hui que des éléments d'ordre identitaire prennent le dessus sur les projets politiques. C'est d'ailleurs ce pas que n'hésite pas à franchir tous les tenants des divers courants d'extrême droite, nationaux, populistes, qui aujourd'hui, malheureusement, ont plutôt le vent en poupe au sein de l'Union européenne et qui sont l'expression de ce malaise, de cette difficulté à tracer, à retracer des perspectives dignes de ce nom. En d'autres termes, ne pas reconnaître l'européanité de la Turquie reviendrait à définir l'Union européenne comme une sorte d'identité culturelle et non comme ce projet politique dont je parlais, ce qui constitue non seulement un contresens très profond, mais qui ouvre aussi de potentielles conséquences graves générant des nationalismes inquiétants. Donc, ceci étant posé, comme je ne voudrais pas verser dans un pessimisme de bas étage, je crois aussi à la capacité des États européens et de l'Union européenne à se saisir de leurs difficultés, à les débattre publiquement pour y trouver des solutions, se concrétisant par des décisions législatives, et que ça, c'est aussi très important pour la Turquie elle-même. Il ne faut pas se leurrer à propos de la Turquie. Depuis des années, la perspective européenne, puis celle de l'adhésion à l'Union européenne, c'est deux choses différentes, ont constitué un fort sentiment politique référentiel en Turquie. Mais ce n'est pas donné définitivement. Ça va de soi. Vous avez sûrement lu un papier il y a quelques jours dans Le Monde, un éditorial, « Sommes-nous en train de perdre la Turquie ?» Certes, l'article était surtout concentré sur les aspects politiques extérieurs. Ça, c'est mon dada. Mais en réalité, ce papier mettait le doigt, pardonnez-moi l'expression, là où ça fait mal. Parce que la question est une bonne question. J'espère que nous n'y répondrons jamais positivement. Mais il faut quand même comprendre que la pusillanimité européenne alimente en retour des perceptions de plus en plus négatives au sein de la Turquie et encourage malheureusement les forces politiques les plus rétrogrades, les plus frileuses, pour ne pas être désobligeants, qui prônent un souverainisme ou un nationalisme un peu exacerbé dans certains cas. Donc, nos propres atermoiements, en dépit des évolutions, des progrès qui sont réalisés, mais qui sont beaucoup trop lents, de mon point de vue en tout cas, le fait que l'Union européenne, qui par ses atermoiements, par le fait qu'elle ne respecte pas toujours sa parole, génère en retour des crispations en Turquie même. Et ça, bien sûr, ni les citoyens turcs, ni les citoyens européens n'ont à y gagner. Et je crois qu'il faut faire très attention à une chose, et les responsables politiques européens, alors quand je dis « les », pardonnez-moi, je les mets tous dans le même sac, ce qui est une erreur de méthode, mais certains dirigeants européens devraient méditer que le fait que jamais on ne peut impunément mépriser son partenaire et que jamais impunément on peut injurier l'avenir, c'est quand même tout à fait essentiel. Et je trouve qu'il y a certaines déclarations à l'égard de la Turquie ou de ses dirigeants qui ne sont pas dignes. Donc, pour conclure, je crois que les questions fondamentales qui existent sont posées à l'Union européenne elle-même. On entend fréquemment que l'intégration de la Turquie rendrait inopérante les ambitions d'une politique extérieure européenne indépendante, qu'elle rendrait aussi impossible la construction d'un modèle social plus avancé. Mais ces renoncements ont déjà eu lieu. J'espère que ce n'est que transitoire, que temporaire. Mais qui aujourd'hui prétend que l'Union européenne a une politique extérieure commune ? Ceux qui le prétendent sont soit ignorants, soit de mauvaise foi. Il n'y en a pas. Mais je ne dis pas que c'est figé. Et justement, il faut se projeter vers l'avenir. Et alors là, il ne faut pas avoir fait 15 ans de sciences politiques pour comprendre que par sa place et son histoire, la Turquie a un rôle essentiel pour le déploiement d'une politique extérieure digne de ce nom de l'Union européenne. La question, pour aller vite, c'est une Europe politique ou une simple Europe de libre marché, de libre échange? C'est la question, enfin, c'est une des questions fondamentales qui est posée, et il faut admettre que même les plus fervents partisans de la construction européenne nagent un petit peu dans le brouillamini actuellement. Bon, ce projet européen est en partie en panne, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut se désespérer. Au contraire, le projet européen est pour les États membres et pour ceux qui veulent y adhérer est un projet formidable, et c'est un défi grandiose en même temps. C'est pourquoi, à mon avis, la méthode de construction européenne et la nécessité de remettre cette construction sur ses pieds, eh bien, est tout à fait important. Et je crois que, pour l'instant, les formules des coopérations avancer l'affermissement des coopérations intergouvernementales doivent être favorisées. Inutile de se leurrer sur le fait qu'on peut tout faire à 27, je n'y crois pas, ce n'est pas la réalité. Mais si on s'inscrit dans une perspective de coopération renforcée nécessaire, alors là, oui, bien évidemment, sur des problèmes aussi importants que les questions énergétiques évoquées tout à l'heure par François, sur les questions de défense, sur les questions de politique extérieure, la Turquie a toute sa place et ô combien importante dans le processus. C'est en ce sens que la candidature de la Turquie rejoint les questions essentielle du moment présent de la construction européenne et que son admission ne nous semble pas devoir être remise en cause. Je dis bien admission, intégration à part pleine et entière, non pas des petits hochets de partenariats privilégiés agités par certains. Donc, et là je m'arrête parce que je ne voudrais pas abuser du temps, je crois que les arguments qui sont opposés à l'encontre de la Turquie, et selon les protagonistes, peuvent se décliner sur des modes très différents, historiques, géographiques, culturels, religieux, droits de l'hommiste, politiques, que sais-je encore. Je crois qu'il ne faut en mépriser aucun, à une seule condition, c'est que le débat soit posé à la bonne hauteur. Refusons que la Turquie serve pour certains de petits prétextes à de mesquins calculs électoraux. Je ne nommerai personne, mais enfin je pense que tout le monde comprend à peu près de qui je parle. Je crois que le débat, la façon dont nous engageons et nous poursuivons les pourparlers doivent être sérieux, bien sûr, ça cela va de soi, mais loyal en même temps. On ne peut pas promettre une chose et son contraire. Et tout à l'heure, on faisait référence à 1963, il y a des axes. L'axe, c'est l'adhésion pleine et entière. Alors évidemment, nous avons, nous aussi, amis de la Turquie, un défi formidable. C'est qu'à l'heure de l'information globalisée, on constate que ce pays à 3 heures d'avion, en tout cas sa partie occidentale de Paris, est encore très très mal connu, que les préjugés, les fantasmes, les a priori, les erreurs sont quand même monnaie courante. C'est de ce point de vue-là que nous, Français, avons aussi une responsabilité et c'est pour ça aussi que je remercie les organisateurs pour cette journée qui certainement nous permet de mieux comprendre les réalités aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.